Bonjour, une prise d'otage a lieu en ce moment même dans une école de Besançon en France. Le preneur d'otage est armé de sabres et détiendrait toujours des enfants. On fait le point dans un instant avec Mehmet Gültaş. Procap, l'association pour personnes avec handicap, a remis ce matin 10 revendications à Didier Burkhalter, ministre en charge de la Santé. Procap qui a choisi la date anniversaire des 50 ans de l'assurance invalidité pour demander davantage d'intégration des personnes handicapées. Raphaël Feldman de Procap sera avec nous dans un instant. Les consommateurs suisses payent le prix fort lorsqu'ils font leurs achats alors que l'euro baisse par rapport au franc. C'est l'un des résultats de l'enquête menée par la RSR. Sous la loupe, 10 produits de grande consommation en provenance de l'Union européenne. Et le constat est clair, les prix baissent rarement, voire jamais, selon les enseignes. Vous entendrez la réaction de Mathieu Fleury, secrétaire général de la FRC. Silvio Berlusconi a proposé ce matin un pacte de législature aux centristes pour qu'ils soutiennent son gouvernement à la veille du vote décisif d'une motion de confiance au Parlement. Avant ce vote, nous nous demanderons ce que pensent les Italiens qui avaient plébiscité le Cavaliere en 2008. Céline Tso est allée à leur rencontre, vous les entendrez. Le livre numérique a le vent en poupe. La semaine dernière, Google proposait une librairie en ligne comptant 3 millions de titres. Il y a un an, jour pour jour, Amazon lançait son livre numérique Kindle et 9 millions de personnes passaient commande. Après une première phase d'observation pour les éditeurs, la montée du numérique fait-elle encore craindre le pire pour le livre papier? Nous poserons la question à notre invitée Marlys Pietri, directrice des éditions Zoé. Ça sera en fin de journal. La semaine s'annonce très froide avec la présence de la bise. Il faudra compter aujourd'hui avec des températures de 2 degrés au maximum et du soleil. Mercredi sera la journée la plus froide, nous dira Sébastien Dupéret. En France, un jeune homme de 17 ans armé de sabre a retenu en otage des enfants dans une école maternelle ce matin de Besançon. Mehmet Gültaş, quels sont les derniers développements ?
Oui, le preneur d'otages est entré dans l'école ce matin vers 8h30, armé, vous l'avez dit, de 2 sabres. Il a d'abord retenu une vingtaine d'enfants de 4 à 6 ans. La police est entrée en contact avec lui. Le preneur d'otages a libéré 5 puis 8 enfants. Et en milieu de journée, il restait encore 5 enfants et leur institutrice détenus en otage. Toutes les autres classes ont été évacuées et une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour les familles des enfants. Le groupe d'intervention de la police nationale de Strasbourg est arrivé sur place vers 11h30, suivi du ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, il y a 3/4 d'heure. Et les policiers sont entrés tout à l'heure dans le bâtiment avec du matériel. On ignore les revendications du jeune homme. Selon les autorités, il s'agirait d'une personne dépressive et sous traitement psychiatrique. Il n'aurait pas pris ses médicaments. Toujours selon les autorités, le preneur d'otages aurait réclamé tout à l'heure une arme pour mettre fin à ses jours.
Mehmet Gültaş en direct de Paris avec les dernières précisions de la matinée sur cette prise d'otage. Procap a remis ce matin une pétition munie de 3561 signatures au directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Yves Rossier. Une pétition accompagnée de 10 revendications en faveur des personnes handicapées. L'association entend ainsi marquer les 50 ans de l'assurance invalidité, Christelle Domingeau.
Un anniversaire fêté sans débordement de joie vu le contexte. L'AI est en situation financière difficile et les révisions se succèdent. La principale revendication de Procap concerne la réintégration des personnes handicapées sur le marché du travail. C'est l'objet de la 6e révision de l'AI qui passera demain devant le Conseil national. L'objectif est de sortir 16 000 personnes de la rente. Mais pour Procap, ça ne pourra pas se faire sans l'introduction de quotas dans les entreprises. Obliger par exemple les grandes sociétés à employer un pourcentage défini de personnes handicapées. Ce point sera l'un des enjeux principaux des débats. Le Conseil fédéral est contre. La gauche et une partie du PDC estiment que c'est une bonne manière d'atteindre cet objectif. Autre revendication, que l'on change le nom de l'assurance invalidité. C'est le mot « invalide » qui heurte Procap, un mot jugé dégradant. Changer le nom montrerait plus de respect envers les personnes avec un handicap, ce qui est justement l'un des objectifs affichés de Procap.
Et à vos côtés, Christelle Domingeau, Raphaël Feldman, vous faites partie de la communication de Procap. Raphaël Feldman, bonjour.
Bonjour.
3561 signatures, c'est pas vraiment beaucoup. Est-ce que vous êtes déçu par ce nombre de récoltes de signatures ?
Non, au contraire. Alors nous sommes tout à fait heureux de ce chiffre parce que nous l'avons lancé au mois de septembre, un petit peu à la dernière minute, si je puis dire, en se disant que effectivement l'année des 50 ans anniversaire de l'AI touchait à sa fin et que c'était un peu l'occasion de voir comment réagissaient nos membres. Vu la structure bénévole que nous avons dans toutes les sections de Suisse, on voulait un petit peu voir, disons, comment ça réagissait. Et 3500 signatures en quelques semaines, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que nos membres sont très réactif par rapport à ces questions-là.
Parmi vos revendications, dont Christelle Demingeau a un peu parlé avant, l'introduction de quotas de travailleurs handicapés dans les entreprises, de manière à mettre en œuvre le but de la 6e révision de l'AI, c'est-à-dire la réinsertion en tout de 16 000 personnes dans le monde du travail. Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse de devoir passer par des quotas, obliger les entreprises à...
Alors, d'un côté, je dois tout d'abord vous corriger. Les quotas, c'est un petit peu une mesure, d'extrême urgence, si je puis dire. Au fond, ce que nous souhaitons, nous, et depuis des dizaines d'années, c'est que chaque personne avec un handicap puisse avoir droit à la dignité. C'est pas tellement les chiffres qui nous importent, c'est plutôt la dignité de la personne. Et dans ce sens-là, on considère que les personnes avec handicap ont droit aussi à un accès à la culture, à un accès au travail, à un accès à l'école, etc., etc. Les quotas, c'est quelque chose qui vient d'apparaître dans le débat politique et sincèrement, je souhaite encore qu'on puisse trouver des solutions autres. Quant aux 16 000 personnes qu'il s'agit de réinsérer dans le monde du travail, ça c'est une donnée que le politique a fixée, sans d'ailleurs encore tellement réfléchir aux moyens.
Voilà, elle vous paraît réalisable, là, les 16 000 personnes réinsérées, ça vous paraît réalisable?
Alors de nouveau, M. Rossier, ce matin, lorsqu'on lui a remis la pétition, nous a dit avec beaucoup de malice que dans l'année écoulée, il y avait 2 000 personnes qui avaient été réinsérées dans le marché du travail. Moi, je dis fort bien. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas les chiffres, une nouvelle fois. Chez Procap, c'est la dignité de la personne qui nous intéresse. Et on aimerait savoir quelles sont ces places de travail, quelles sont les conditions de travail qui sont offertes à ces personnes-là. Nous avons vu passer quelques dossiers assez tragiques où des personnes qui avaient une rente AI de genre 1 500 francs par mois se sont vues proposer des emplois encore moins bien payés que ces 1 500 francs par mois, alors qu'ils étaient censés travailler à 100%. Il faudrait qu'on puisse voir maintenant combien il y en a, comment ça se passe concrètement, puisque, comme je le dis, Procap s'intéresse à la dignité de la personne et pas tellement au nombre. Évidemment, M. Rossier parle de chiffres, c'est normal, c'est son travail.
Encore un mot sur l'AI qui va devoir évidemment économiser beaucoup d'argent. Il n'y a pas de proposition chiffrée en ce sens de la part de Procap. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre domaine?
C'est pas seulement parce que c'est pas notre domaine, c'est que parce que, une nouvelle fois, c'est pas tant les chiffres qui nous intéressent d'une part que la dignité de la personne, mais d'autre part, c'est surtout le fait que, en fait, il y a des points de friction qui fonctionnent pas. Je crois que ça a été reconnu. Il y a beaucoup de points de friction qui fonctionnent pas entre les ORP, entre les offices AI, entre toute une série d'antennes administratives qui devraient se coordonner mieux. On peut pas tellement, nous, de l'extérieur, dire comment exactement, mais on pense que là, il y a beaucoup d'efficiences qui pourraient être améliorées. Mmh. Et puis, évidemment que tout ça devrait, disons, pouvoir fonctionner mieux. Et c'est pas tellement à nous de dire où et comment. Je crois que le problème, en fait, c'est que les réformes s'accélèrent. On en est à la troisième en 3 ans. Et on n'a même pas le temps de voir comment faire bien le premier changement législatif, qu'il y en a déjà 2 qui suivent. Et c'est ça qui nous pose problème, surtout.
Je vous remercie, Raphaël Fellman. Vous faites partie de la communication de Procap. Vous répondez à l'invitation de Christelle Demingeau. Bonne journée. Ouverture aujourd'hui à Genève du dernier procès muni d'un jury populaire. 64% des jeunes voix ont voté pour la suppression de cette institution. C'était en mai 2009. Dès le 1er janvier prochain, donc, les jurés amateurs seront remplacés par des juges professionnels. Ce changement, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme cantonale justice 2011, implique une nouvelle façon de travailler pour les avocats. Et on va en parler avec maître Jean-Marc Carnisset. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes avocat au barreau Genevois. Vous vous êtes battu à l'époque pour sauver ce jury populaire et une grande partie de vos confrères estime qu'on ne plaide pas de la même façon devant un jury populaire que devant des juges professionnels. Vous partagez ce constat ?
Absolument. Vous savez, je vais vous répondre avec un exemple. Je ne sais pas si en 1977, Robert Badinter, très grand avocat français, ancien garde des Sceaux de François Mitterrand à l'origine de l'abolition de la peine de mort, je ne sais pas s'il aurait obtenu que la guillotine soit épargnée à Patrick Henry si Patrick Henry avait été jugé par des magistrats professionnels plutôt que par un jury populaire. Ce qui est certain, madame, c'est que l'impact de la décision aurait été très différent sur l'opinion publique française. Le fait, à l'époque, que ce soit des jurés qui aient dit non à la peine de mort dans une petite ville de province, c'était Troyes, une ville très majoritairement acquise à la peine de mort et bouleversée légitimement par le décès d'un enfant, puisqu'il s'agissait de l'enlèvement et du meurtre d'un enfant, eh bien, le fait que ce soit des jurés, cela a revêtu une portée morale considérable dans la lutte pour l'abolition. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il existe un rapport essentiel, à mon avis, ou je devrais dire il existait, puisque le jury va disparaître, entre les citoyens et leur justice. Et vous l'avez compris, ce rapport essentiel, c'est le jury populaire.
Il y a cette forme de sensibilité, c'est ça que vous voulez dire ?
Il y a une forme de sensibilité particulière, je pense, et beaucoup le pensent aussi, qu'on ne doit pas donner le monopole de punir aux juges, mais que cette responsabilité doit appartenir au corps social. C'est pas une question de qualité de la justice. J'ai souvent entendu dire que les avocats critiquaient les magistrats parce qu'ils rendraient une mauvaise justice. C'est pas vrai, bien entendu. Les magistrats peuvent être très bons ou moins bons, les jurés peuvent être très bons ou moins bons, se tromper ou avoir raison.
Mais donner le pouvoir à des juges, de décision à des juges et non plus à monsieur, madame, tout le monde, est-ce que ça ne professionnalise pas encore plus le verdict, la justice au fond ?
Vous avez raison, ça professionnalise, mais ça retire à la justice sa force symbolique. Vous savez, les Anglais disent, il ne suffit pas de rendre la justice, il faut encore qu'on pense qu'elle a été rendue. Le jury, il permet aux citoyens de s'identifier à leur justice. En professionnalisant à tout prix, eh bien, on retire une dimension à la justice qui est profondément symbolique.
Et qu'est-ce que vous répondez au citoyen qui, par exemple, est appelé à être jury populaire, et qui voit ça comme une corvée et qui se dit maintenant, voilà, on laisse ça aux professionnels ?
Bien, je pense qu'en général, il le voit comme une corvée avant d'avoir siégé. Mais quand le citoyen a siégé, quand il s'est rendu compte qu'il s'agit d'un exercice de citoyenneté très important, bien, en général, il sort enrichi de cette expérience. Et il est conscient des difficultés judiciaires, conscient du fait que le juge exerce une tâche extrêmement difficile. Parler d'un dossier au café, c'est tout autre chose que juger un homme quand on est en cour d'assises.
Et ça sera donc pour le 1er janvier prochain, donc ça change à Genève de ce côté-là. Je vous remercie, maître Jean-Marc Carnicé. Je rappelle que vous êtes avocat à Genève, invité par Karine Suigny. Bon après-midi à vous.
Merci madame, merci beaucoup.
Et puis on rappelle d'ailleurs que c'est donc aujourd'hui que s'ouvre à Genève le procès d'un homme d'origine péruvienne accusé d'avoir violé, séquestré sa fille adoptive et d'avoir assassiné une clandestine. Il s'agit donc du dernier procès à se dérouler en présence d'un juré populaire dans le canton de Genève. Les consommateurs suisses ne profitent pas de la baisse de l'euro. C'est ce que montre l'enquête que notre rédaction, en collaboration avec l'émission On en parle, a menée. Depuis le début de l'année, la valeur de la monnaie unique a diminué de 20%. De 20% en tout cas depuis 2007, depuis 10% depuis le début de l'année. Pourtant, les grands distributeurs suisses peinent à répercuter la baisse sur les prix. Depuis le mois de juin, nous avons suivi l'évolution des prix de 10 produits qui proviennent de l'Union européenne entre cet été et début décembre. Trois enseignes étaient sous la loupe et résultat, le discounter allemand Aldi a baissé le prix de 4 produits. Migros de l'un de ses produits et Coop n'a baissé le prix d'aucun de ses produits. Ce qui ne surprend pas Mathieu Fleury, secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs. Écoutez.
Non, malheureusement pas surpris. Depuis le début de ce taux de change, ou avec un franc suisse très fort, nous dénonçons le fait que les prix restent très statiques et votre enquête montre que nous avons raison.
Ce matin, sur notre antenne, le président du conseil d'administration de Migros, Claude Hauser, il est venu évidemment défendre son enseigne. Et pour lui, le panier qu'on a choisi n'est pas forcément représentatif puisqu'il y a le prix de certaines matières premières qui ont augmenté. Est-ce que ce sont des arguments convaincants ?
On nous répond toujours que justement la formation du prix est extrêmement complexe. Il y a toujours un autre facteur qui a monté quand un facteur a baissé. Pour nous, les conditions cadres qui sont toujours invoquées, c'est-à-dire les loyers, les salaires suisses, sont restées stables. Simplement, il y a une des variables qui a changé, qui a baissé, c'est l'euro. Donc à partir de là, mécaniquement, mathématiquement, une baisse est possible et je n'accepte plus ces excuses, je dirais, qui ressemblent fortement à une poésie apprise par cœur. Aujourd'hui, maintenant, il est possible de faire baisser les prix. Aldi le montre et j'appelle vraiment le duopole à faire de même.
Parmi justement les trois enseignes choisies par cette enquête, c'est donc Aldi qui a le plus répercuté cette baisse de l'euro. Est-ce que ça confirme pour vous que Migros et Coop veulent volontairement maintenir des prix élevés alors qu'Aldi arrive à baisser ses prix ?
Je crois qu'il y a une chose importante quand même à dire quant à la fixation du prix. Il y a une variable dont les distributeurs ne parlent que peu, c'est le pouvoir d'achat des Suisses. Dans le fond, si on compare l'Europe à un grand village, ce qui se passe en Suisse, c'est qu'on considère la Suisse comme les quartiers riches. Et dans ce quartier-là, le même produit est vendu plus cher simplement parce que les habitants ont plus d'argent. Et c'est là qu'on voit que la composition des prix n'est pas aussi scientifique ou aussi technique qu'il n'y paraît. C'est simplement qu'on considère que le gentil Suisse, avec son pouvoir d'achat, peut payer plus que le voisin européen. Et donc, on fixe le prix en fonction pour un produit qui a la même valeur, je dirais, intrinsèque en Europe et en Suisse. Donc, on profite de ce pouvoir d'achat depuis des années. Et l'arrivée des hard discounters montre qu'une autre politique est possible. Et on a déjà vu que tant que ces hard discounters allemands n'étaient pas là, Coppé Migros maintenait leur prix à un niveau très élevé. Et sous leur pression, on sent quand même que quelque chose bouge.
Un mot encore sur quelque chose qu'a dit également Claude Hauser sur notre antenne ce matin. Il a admis que Migros réalise une marge d'environ 30% sur ses produits. C'est quand même un chiffre conséquent. Il justifie ce taux par des coûts plus élevés en Suisse, par l'intégration verticale de la Migros. Ça veut dire faire des publicités qu'ils doivent financer jusqu'au produit final qu'ils mettent en magasin. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ?
C'est vrai que ça, c'est une particularité assez intéressante du marché suisse, avec une proportion de produits distributeurs très importante, beaucoup plus importante que chez nos voisins européens. Néanmoins, cette intégration-là a aussi son intérêt. Je comprends qu'effectivement, il doit assumer des frais de publicité, mais il est évident que Migros distributeur ne va pas imposer à Migros, je dirais, industriel, des coûts de publicité aussi élevés qu'il le ferait par rapport à un tiers. Donc l'intégration qui est poursuivie par les deux grands distributeurs suisses a aussi un intérêt, c'est de maîtriser toute la chaîne. Donc là maintenant d'invoquer ces frais-là comme, disons, étant des composantes aussi majeures que ceux-là dans cette marge de 30% qui est en comparaison européenne de nouveau massive, c'est vraiment une des plus hautes du monde, je crois que l'explication est quand même un peu courte.
Mathieu Fleury, secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs, et vous pouvez entendre les différents intervenants qui se sont exprimés sur cette enquête sur rsr.ch. 4 communes du Grand Fribourg ont décidé d'unir leur destinée sans attendre la création d'une large entité qui engloberait également Fribourg, Marly et Villars-sur-Glâne. Eh bien, les communes de Grange-Paco, Givisier, Corminboeuf et Chézopello entendent fusionner. Les 4 communes qui ont en commun leur petite taille et leur bonne santé financière ont présenté tout à l'heure leur projet de mariage. Cette fusion partielle met-elle en cause la création un jour d'un Grand Fribourg? Eh bien, on va en parler avec Erika Schneider. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Syndic de Villars-sur-Glâne. Alors, 4 petites communes qui se marient sans attendre les autres. Est-ce que c'est vraiment la fin du grand ensemble à 60 000 habitants du Grand Fribourg?
Écoutez, je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire. Je pense qu'il s'agit là d'une étape qui n'exclut absolument pas la fusion du Grand Fribourg. Je dirais même que ça pourrait même faire accélérer les travaux, parce que je pense que ces communes ont beaucoup d'intérêts communs. Elles font énormément de choses en commun et puis elles ont une taille qui est pratiquement la même. Et donc, j'imagine qu'elles ont pesé le pour et le contre et se sont dit que commençons d'abord par notre fusion à nous, qui pourra rejoindre ensuite la grosse fusion du Grand Fribourg.
Mais au fond, c'est quand même la réunion des petits et des riches qui peut-être se rapprochent pour être plus forts face à Fribourg, Marly et puis votre commune, Villars-sur-Glâne, non ?
Plus fort, je ne sais pas, mais en tout cas plus équilibré. Parce que effectivement, si vous arrivez à une commune de la taille de 7000 habitants, qui correspond plus ou moins à la taille de la commune de Marly, avec un conseil général, ça aplanit déjà passablement de difficultés par rapport à la situation des grandes communes.
Alors là, on a l'impression que c'est un petit peu une fusion par étapes. Est-ce que ça vous semble être vraiment la bonne solution ?
Écoutez, moi je crois que toute solution qui mène à la fusion est bonne. Si ces communes ont préféré passer par là, elles ont aussi leurs raisons. Elles se sont exprimées là-dessus, il ne m'appartient pas d'en discuter. Mais moi, je pense que tous les moyens sont bons pour arriver à la grande fusion. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a pas mal de difficultés d'une fusion aussi importante que celle des 6 communes. Et je pense que pour aplanir ces difficultés, il faut mettre dans la